La science CQFD, Natacha Triou.
Chaque jour, nous sommes exposés à des milliers de substances chimiques, dès les premiers instants de la vie, même avant notre naissance. Cette pollution est omniprésente. Comment mesurer son impact sur notre santé ? Cet été, l'actualité a été, disons, contaminée par un certain nombre d'affaires. Le risque de retour de pesticides interdits avec la loi du plomb, l'eau potable alsacienne contaminée au PFAS et le fiasco des négociations à Genève sur les microplastiques. La question des polluants est loin d'être résolue. Aujourd'hui, près de 100 000 molécules chimiques sont produites par l'industrie dans le monde. Parmi elles, seuls 0,5% sont bien caractérisées. Toutes ne sont pas dangereuses, certes, mais reste à savoir celles qui le sont, comment la recherche progresse-t-elle pour assurer cette vigilance. Polluants chimiques, un danger éternel. Claire Philippa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche à l'INSERM, épidémiologiste environnementale, spécialiste des effets des polluants chimiques sur le développement de l'enfant. Robert Barouki, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, biochimiste et biologiste, directeur de l'Institut thématique de santé publique de l'INSERM et directeur de l'Institut de recherche en santé publique. Et joie de vous retrouver à nos côtés, Yann Cornillier, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine de l'INSERM, notre magazine partenaire, avec comme grand angle pour ce nouveau et 65e numéro, polluants chimiques, la menace invisible. Et vous co-animerez cette émission à mes côtés. Merci à vous trois d'être là avec nous dans ce studio en direct et merci à vous d'être là au rendez-vous, en direct ou à toute heure, en podcast. Tous nos numéros sont sur notre fil podcast de l'appli Radio France et vous pouvez aussi nous suivre sur Blue Sky. Tous les jours, nous postons pour vous de nombreuses ressources et sur notre compte @sciencesqfd. Alors comment les connaissances et les pratiques en toxicologie ont été bouleversées ces dernières décennies? Qu'est-ce que l'effet cocktail ou encore qu'est-ce que l'exposome? Nous avons une heure pour répondre à ces questions. Mais d'abord, on revient sur cet été avec le projet de réautorisation dérogatoire des néonicotinoïdes de la loi du plomb avec une chronologie réalisée par l'INA.
Depuis quand alerte-t-on sur les néonicotinoïdes en France? L'une des premières alertes sur la toxicité de ces substances, c'était en 1998. À l'époque, un phénomène inquiète les apiculteurs de l'ouest de la France.
Les abeilles ne retrouvent plus la ruche, c'est un problème de désorganisation de leur sens de l'orientation. Elles se perdent dans la nature et elles ne retrouvent pas la ruche.
Le coupable, selon les apiculteurs, l'imidaclopride, un néonicotinoïde présent dans le gaucho, qui est un insecticide. Il est vendu par l'entreprise pharmaceutique allemande Bayer depuis 1994. En 1999, le ministère de l'Agriculture interdit provisoirement son utilisation, mais uniquement pour les semences de tournesol. En revanche, il est toujours autorisé pour le traitement du maïs. Pour protester, les producteurs de miel réalisent des actions coup de poing, comme ici près de Tours en 2000. Leur cible, une des usines de la société Bayer. Des centaines d'apiculteurs en colère viennent y jeter leurs ruches. Face à la pression des apiculteurs, l'utilisation de l'imidaclopride sur le maïs est interdite en 2004. Mais d'autres néonicotinoïdes arrivent sur le marché, notamment en 2008.
Le nouveau venu s'appelle le Cruiser.
Le Cruiser, il est utilisé pour traiter le colza. Le Cruiser est banni des champs de colza en 2012. Et 6 ans plus tard, en 2018, la France décide d'interdire tous les néonicotinoïdes. Jusqu'au 1er juillet 2020, des dérogations au cas par cas étaient possibles. Elles ne concernaient que des insecticides à base d'acétamipride. Ce néonicotinoïde, utilisé notamment dans la culture de cerises et de betteraves, est réintroduit partiellement en 2025 avec la loi du plomb.
Voilà une mise au point de l'INA et le Conseil constitutionnel a depuis censuré la réintroduction de l'acétamipride au nom de la Charte de l'environnement en août dernier. Claire Philippa, dans le cortège de toutes ces substances, les néonicotinoïdes, c'est un peu ce polluant chimique qui est peut-être le plus emblématique de tous?
En fait, je pense que cette loi du plomb et les discussions autour des néonicotinoïdes, c'est finalement une partie de l'iceberg des substances auxquelles on est exposé. Il y a les néonicotinoïdes, mais il y a beaucoup d'autres substances. Et en plus, cette loi du plomb aussi, elle fait appel à la réglementation qui est aujourd'hui par secteur. Donc là, on s'intéresse aux néonicotinoïdes dans l'usage agricole. Et en fait, l'acétamipride, il est autorisé aujourd'hui dans les biocides qu'on peut utiliser à la maison pour lutter contre les mouches et certains insectes. Et en fait, pour être efficace, une réglementation, il faudrait qu'elle soit plutôt multisecteur, donc qu'elle se focalise sur l'agriculture, mais aussi sur les usages domestiques. Donc il y a beaucoup de choses que soulève finalement cette loi du plomb et les discussions autour des néonicotinoïdes sur lesquelles je pense qu'on pourra revenir aujourd'hui.
Robert Barouki, votre réaction, vous ici, à l'écoute de cette archive et des discussions que la loi Dupont a pu susciter cet été.
Oui, il y a des aspects très importants dans cette question. C'est que là, on parle d'un insecticide, donc ça touche les abeilles, donc les écosystèmes, mais ça peut aussi toucher les êtres humains. Et donc, il y a une relation entre les écosystèmes et l'être humain. Et il faut avoir une vision très complète et très intégrée de la toxicité en général. On ne peut pas séparer, ça c'est uniquement toxicité. C'est ce qu'on fait hein, dans les pratiques, mais si quelque chose touche les pollinisateurs, c'est pas bon pour l'homme, indirectement peut-être, mais c'est pas bon. Donc il faut qu'on ait cette vision complète, et donc cette discussion là autour de la cyanamipride était intéressante à ce sujet. Elle est aussi intéressante parce que nous sommes devant une substance qui a sans doute des effets toxiques, mais les arguments, enfin nous, quand on parle d'effets toxiques, on associe toujours ça avec un poids des preuves. Quelles sont les preuves qui nous permettent de dire que telle substance est toxique ou pas? Alors des preuves épidémiologiques, donc en population humaine, comme le fait Claire, ou expérimentalement au laboratoire, ou parfois grâce à des données d'ordinateur, hein, donc de modèles numériques. Donc on accumule l'ensemble de ces arguments. Et à partir de là, on dit, oui, là, on a beaucoup de preuves, on a moyennement des preuves, ou on a relativement peu de preuves, et on ne peut pas dire. Donc c'est toujours le poids des preuves qui compte.
Et on verra évidemment, au cours de cette émission, comment obtenir ces preuves. Mais Yann Cornillier, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive. Et à propos, pour continuer, hein, sur les néonicotinoïdes.
Oui, bah, tout à fait. En fait, c'est vraiment la substance un peu emblématique de toutes les substances dont on entend parler actuellement, comme les PFAS, les microplastiques, etc. Et effectivement, ce sont des substances qu'on retrouve dans notre quotidien, là, auxquelles on est exposé en permanence. Et finalement, il faut aussi du temps pour construire des données scientifiques, médicales, et puis aussi construire la réglementation. Et que, en fait, tout ça, ça prend vraiment du temps. Et que pour toutes ces substances, il faut ce temps pour pouvoir ajuster la réglementation et puis évaluer son impact sur la santé de l'homme.
Robert Barouki, en effet, les néonicotinoïdes, ça, ce n'est qu'un spécimen de ce qu'on appelle les xénobiotiques. Oui. Alors, justement, que regroupe cette appellation?
Ce sont toutes les substances qu'on fabrique. Enfin, et qui sont étrangères à notre organisme. Notre organisme est constitué de milliers et de centaines de milliers de substances endogènes, qu'on appelle endogènes parce qu'elles sont dans notre organisme. Et donc, voilà. Et puis, il y a des substances qui sont extérieures, par exemple synthétiques, fabriquées, et que, donc, on va absorber et qu'on appelle des xénobiotiques. Pourquoi on les catégorise comme ça? C'est parce que nous savons réagir vis-à-vis des xénobiotiques. Nous savons nous adapter vis-à-vis des xénobiotiques. Il y a des systèmes enzymatiques, notamment dans le foie, mais ailleurs aussi, qui nous permettent de vivre avec des xénobiotiques, parce qu'ils ont toujours existé. Quand il y a un feu de forêt, il y a plein de xénobiotiques qui nous concernent. Donc, on sait réagir. Notre système n'est pas parfait non plus, il ne faut pas le solliciter en permanence, mais on a un système d'adaptation qui nous permet, et qui est spécifique, assez spécifique en tout cas, des xénobiotiques par rapport à des substances qui sont dans notre corps, comme le sucre, l'urée, etc.
Là, on entend déjà parler de PFAS, on va évoquer le bisphénol, des substances cancérogènes, des perturbateurs endocriniens. Finalement, de quoi parle-t-on, Claire Philippa, quand on parle de polluants chimiques? Qu'est-ce que ça regroupe, ça aussi?
Alors, voilà, polluants chimiques, c'est un terme très vague, finalement, qui englobe plusieurs centaines de milliers de substances. Il y a différentes façons de les classifier. Là, quand vous parlez de PFAS, de bisphénol, c'est plus la famille chimique, finalement, la structure de ces composés. On peut aussi les caractériser en fonction de leur effet sur la santé. Dans ce cas-là, on va plutôt parler de substances cancérogènes, de perturbateurs endocriniens ou de reprotoxiques. Et puis, dans la recherche aussi, parfois, on tend à les classifier en fonction de leur rémanence, le temps qui reste dans l'environnement ou dans l'organisme, avec des substances à plus ou moins longue demi-vie. Donc, polluants chimiques, ça inclut beaucoup de substances. Et il y a différentes façons de les caractériser en fonction des recherches faites ou des questions.
Yann Cornillier.
Et justement, cette question de la demi-vie, c'est important pour le terme qu'on emploie souvent dans les médias, qui est polluant éternel. Donc, c'est des substances qui restent très, très longtemps. Mais c'est pas le cas de tous les polluants chimiques pour autant. Il y en a qui sont très courts. Et donc là, c'est d'autant plus difficile aussi à évaluer dans l'environnement.
Oui, Claire Philippa.
Oui, et justement, cette demi-vie, enfin, un peu schématiquement, on peut dire que les substances un peu plus anciennes, elles avaient une longue demi-vie rémanente, et puis on a tendu à les remplacer par ces substances à plus courte demi-vie, avec l'idée qu'elles seraient plus rapidement éliminées de votre organisme. C'est le cas du bisphénol A, par exemple. Et malheureusement, ça marche pas, parce que vu qu'on est constamment exposé à ces substances. Du bisphénol A, on est toujours capable de le détecter n'importe quand dans les urines qu'on recueille en population générale. Donc c'était l'idée d'essayer de protéger la population en ayant des substances moins rémanentes, mais ça marche pas vraiment. Et puis c'est pas le cas de toutes les substances. Hein. Les PFAS, effectivement, c'est ceux-ci qu'on appelle polluants éternels parce qu'ils sont très difficiles à dégrader à la fois dans l'environnement et dans les organismes.
Bon, en tout cas, par rapport à cette rémanence et ces durées de vie, Robert Barouki, en effet, les industriels ont présenté ça, la faible rémanence, comme un avantage pour la santé publique, mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça.
C'est beaucoup plus compliqué que ça. Cela dit, le fait d'être rémanent et donc d'être perpétuel, comme on dit, est un vrai problème. Et d'ailleurs, dans les agences, notamment les agences européennes, les classifient à part. Hein. Vous avez un peu toutes les substances persistantes, donc, sont classifiées à part. Et c'est important de les classifier à part parce que on va développer une substance qui va être persistante. On va faire les premières études réglementaires et on va, par exemple, trouver que il y a pas tellement de toxicité trouvée. Mais si, qu'on commence à l'utiliser, si au cours des années, on se rend compte qu'il y a un problème, ben c'est un peu trop tard. On a déjà ces substances dans l'eau, dans les sols, dans notre corps. Et donc, c'est à part, c'est vraiment à regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention quand une substance est persistante. Surtout si elle est en plus mobile. Ça, c'est les PFAS. Ils sont persistants, mais ils sont mobiles. On les va dans des sols et puis hop, ils passent dans l'eau. Et ensuite, voilà, d'autres boissons, etc.
Claire Philippa, les PFAS, juillet 2025, la restriction dans une dizaine de communes alsaciennes de consommation d'eau potable, qui étaient donc suspectées d'être contaminées aux PFAS, ce sont aussi des perturbateurs endocriniens. Alors, ils n'ont pas seulement ça comme effet, ils en ont plein d'autres, les PFAS, en plus, enfin, par rapport au fait que cette substance est très problématique.
Alors, effectivement, les PFAS, ils posent différents problèmes. Le problème qu'on a déjà évoqué de la rémanence et du fait qu'ils restent dans notre environnement et nos organismes. Et donc les PFAS, c'est une famille qui contient plus de 10 000 substances. Et ce que Robert a appelé tout à l'heure le niveau de preuve, c'est-à-dire le niveau de connaissance sur ces PFAS, il est très variable en fonction des molécules. Je dirais que sur les 10 000, il y en a peut-être 20 qui sont très bien caractérisés, qu'on sait doser dans les matrices biologiques humaines. Et parmi ceux-ci, il y en a pour lesquels l'effet sur la santé est avéré. Il y en a qui sont classifiés comme cancérigènes probables ou certains par le CIRC. On a aussi des études qui montrent une immunotoxicité, donc une toxicité vis-à-vis de votre système immunitaire, qui est le premier système de défense des organismes via les infections. Donc oui, ces PFAS, ils posent un problème pour la santé. Et cette loi, donc elle visait la réglementation. Donc c'est une loi française qui visait la réglementation de l'interdiction de l'utilisation de PFAS dans certains articles, notamment les textiles, les cosmétiques et les fartes. Donc je dirais c'est un premier pas, mais qui reste insuffisant. On aurait aimé par exemple une réglementation aussi autour de l'alimentation, qui est une des sources probables d'exposition aux PFAS. Et puis, quelque chose qui est intéressant vis-à-vis de cette réglementation liée aux PFAS, c'est que là, cette loi, elle vise la famille. Alors que souvent, jusqu'à maintenant, on avait tendance à réglementer par substance. Par exemple, vous avez parlé du bisphénol A. Le bisphénol A, il a été interdit dans les contenants alimentaires en 2015. Mais les autres composés de la famille des bisphénols, notamment le bisphénol S, n'a pas été interdit. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que ce composé pourrait aussi avoir des effets similaires au bisphénol A. Donc il y a des choses intéressantes autour de cette réglementation. Et donc c'était une réglementation française. Et au niveau européen, il y a aussi des discussions pour avoir une réglementation sur ces substances.
Voilà, une réglementation sur toute la famille des PFAS et pas juste sur un seul produit. Yann Cornillier.
Oui, surtout que les produits s'enchaînent et se ressemblent ou pas. Et effectivement, dans le cas du bisphénol A, et il y a eu ensuite le bisphénol S qui a permis de le remplacer. Mais en fait, on s'aperçoit au fur et à mesure, comme disait Monsieur Barouki, au fur et à mesure des années, que lui aussi pose des problèmes. Donc, faut toujours être en veille sur ces produits. Voilà. Et juste pour ajouter par rapport aux PFAS, en fait, effectivement, c'est ce qu'on retrouve classiquement dans les revêtements anti-adhésifs des poils, etc., dans les cosmétiques et aussi parfois dans certains emballages industriels. Donc, effectivement, ça c'est en contact direct avec la nourriture.
Et puis, vous venez d'évoquer également un point, Claire Philippa, sur nos méconnaissances sur ces molécules. Et c'est aussi un chiffre qui est rappelé dans ce dossier INSERM. Hein, 100 000 molécules connues produites par l'industrie, mais 70% qui représentent une toxicité mal caractérisée, Robert Barouki.
Oui, ce sont des chiffres de l'Agence européenne de l'environnement. Hein, c'est pas nous qui les avons inventés. dans ce dossier, ils ont analysé, ils ont 100 000 substances chimiques qui nous entourent à un certain tonnage. Hein, bien sûr, il y en a beaucoup plus, hein, si on veut aller plus loin. Il y a 500, donc 0,5%, qu'on connaît très bien. Bon, on a cité quelques PFAS, là, qu'on connaît vraiment très bien. Le bisphénol A, je pense qu'on connaît très bien. Et puis, il y en a ensuite 10, 20 000 dont on connaît quelque chose, peut-être il y a peut-être un effet cancérigène ou tel effet sur tel animal dans la nature, et puis 70 000 sur lesquels on ne connaît vraiment rien. Et moi, enfin, j'avais aidé à l'époque une journaliste à faire un livre sur les toxiques dans les aliments, et elle me donnait des noms de toxiques dont j'avais jamais entendu parler, et je cherchais, il y avait rien, j'avais rien. J'arrivais pas à ça. Donc peut-être il y a dans le dossier quelque chose, mais non, j'avais rien. Donc c'est un vrai sujet.
Claire Philippa.
Et c'est vrai qu'une des problématiques finalement pour établir ce niveau de preuve, c'est qu'on a besoin de données scientifiques. Et nous, par exemple, en épidémiologie environnementale, pour évaluer l'effet de polluants chimiques sur la santé, on va les doser dans le sang ou dans les urines. Et donc on est dépendant de la capacité des laboratoires à doser ces substances. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de substances que les laboratoires ne sont pas capables de doser. Donc c'est quelque chose qui évolue, notamment avec ce concept d'exposome dont vous avez mentionné le nom dans le chapeau, mais c'est vraiment quelque chose qui évolue. Et aujourd'hui, comme le dit Robert, il y a beaucoup de substances pour lesquelles l'effet sur la santé n'est pas caractérisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, mais ça veut plus dire qu'il n'y a pas d'études aujourd'hui sur leurs effets.
Et si je peux rajouter quelque chose, on a mentionné tout à l'heure les PFAS, 10 000 PFAS. On connaît bien, disons, une vingtaine. Allez, on ne va pas passer le même temps qu'on a mis pour bien connaître et caractériser cette vingtaine sur tous les PFAS, les milliers de PFAS qui restent. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Ou alors, on raisonne par famille. Ça, c'était l'objet, en fait, c'est le raisonnement. Ou alors, un jour, peut-être que ça viendra, on pourra en discuter tout à l'heure, on peut trouver des moyens d'aller beaucoup plus vite sur cette analyse et de permettre, en fait, de diffuser dans nos sociétés des substances moins nocives.
Mais justement, quels sont les moyens pour mieux caractériser ces substances chimiques et toxiques ? Restez avec nous.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture et en partenariat avec l'INSERM, nous parlons de polluants chimiques. On vient d'évoquer le fait que la contamination de notre environnement est totale. L'inventaire européen des substances chimiques commerciales dénombre actuellement 100 204 molécules. Parmi elles, 70 000 restent inconnu. On vient de voir aussi que certains produits s'éliminent très rapidement, d'autres pas du tout, comme les PFAS. On n'a pas encore évoqué ensemble, Robert Baroucki, comment un polluant contamine-t-il l'environnement et donc de fait notre organisme. Quels sont les mécanismes en jeu ?
Alors, bon, il y a évidemment plusieurs mécanismes. D'abord, au moment de la fabrication, il peut y avoir une contamination de l'environnement autour. Ensuite, si ce polluant se retrouve, par exemple, dans les sols, il peut contaminer les plantes, et donc il peut y avoir une contamination par les plantes, mais ensuite les animaux qui vont manger les plantes, donc il va se retrouver chez l'animal. S'il a certaines propriétés, il peut même se retrouver parfois dans la graisse donc de l'animal, pas tous, hein, ça dépend des propriétés, hein, donc il n'y a pas une loi unique sur les mécanismes de contamination, ce serait trop simple, hein, vous comprenez. Ensuite, on consomme la viande, et donc on se contamine, on consomme des végétaux qui sont contaminés, on se contamine. C'est peut-être le premier niveau, si vous voulez, de contamination par l'alimentation. Mais on peut être contaminé par l'air. Hein, donc, dans l'air, il y a toute une série de contaminants. Et donc, la pollution de l'air, c'est quelque chose qui est connu et qui est assez, assez complexe. Et donc, par l'eau, etc., etc. Donc, il y a plusieurs mécanismes de contamination. Parfois, le même contaminant provient à la fois de l'alimentation, de l'eau et de l'air. Et donc, il y a toute une série d'études analytiques qui nous permettent de voir quelle est la provenance essentielle. Et tout ça se termine dans notre organisme. Notre organisme ne fait que refléter, quelque part, notre environnement. Il ne faut jamais l'oublier.
Claire Philippa, on évoque aussi la notion de biodisponibilité d'une substance chimique. C'est une notion qui est très importante aussi dans l'évaluation du risque toxicologique.
Alors, plutôt que biodisponibilité, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est reparler des sources d'exposition à ces composés et comment, au niveau individuel, on est capable ou pas de les identifier. Et en fait, une des problématiques avec ces substances, hein, ce qui fait écho à ce que vient de dire Robert, c'est que les sources d'exposition sont multiples. Ça peut être l'alimentation, ça peut être l'eau, l'air, c'est aussi les produits de soins et cosmétiques qu'on utilise. Donc, en fait, elles sont multiples et c'est très difficile au niveau individuel de les identifier et de s'en protéger. Et c'est pour ça que la réglementation, quand on parle de protection de la population générale, elle est importante parce que c'est difficile au niveau individuel de se protéger de ces substances.
Par rapport à la biodisponibilité, je reviens dessus, Robert Baroucki, je pensais par exemple à l'exemple du bisphénol A qui est assez parlant justement dans le cas des biberons.
Oui, bien sûr. Donc là, c'est un cas assez particulier. Les biberons étant composés de bisphénol A, et ça, donc ça passe dans le lait et donc ça contamine le bébé. La biodisponibilité, c'est le fait d'absorber, bon, de boire ou de manger des aliments contenant ce contaminant. Alors soit il pénètre dans l'organisme, parfois il ne pénètre pas dans l'organisme et le problème est réglé. Parfois il pénètre immédiatement et il est éliminé par exemple dans les urines et c'est un cas très général et heureusement. Parfois il est modifié par notre système de défense et il est éliminé, tout va très bien. Et puis dans certains cas, il y a des effets toxiques qui se manifestent parce que finalement il est absorbé et il va aller se loger dans différents organes. Si je prenais les plastiques, par exemple, on parle beaucoup des nano et des micro-plastiques, on en trouve dans le cerveau actuellement, donc c'est un sujet, comment ils sont arrivés là-bas. Donc les polluants vont un peu partout dans notre organisme.
Yann Cornillier ?
Ouais, peut-être pour résumer, en fait, là, ce qu'on appelle par biodisponibilité, c'est vraiment la capacité à interagir avec l'organisme en fait, d'une molécule, donc qu'elle interagisse de manière toxique ou non, mais en tout cas, ce qu'elle peut interagir avec nos cellules, etc., avec nos hormones, tout un tas de choses.
Voilà, avec notre organisme ou notre environnement. Je pense par exemple aux poils, aux vieilles téfales qui contaminent parce qu'elles sont rayées, échauffées par exemple. Vous vouliez réagir, Claire Philippa ?
Non, c'est juste sur ce qui vient d'être dit. Le bisphénol A, il est interdit aujourd'hui hein, dans les biberons, oui. Mais ce n'est pas le cas des autres bisphénols.
Le bisphénol A qui est interdit, la contamination explosait si le biberon était chauffé justement, il me semble, dans ces réactions. Alors par rapport justement aux effets, on vient de parler des inconnus, mais en tout cas, quels sont les effets bien connu, bien documenté de ces polluants sur la santé, Robert Barouki.
Les effets sont multiples et touchent pratiquement tous les organes et toutes les pathologies. Bon, les effets les plus connus historiquement, c'est le cancer. Ça a été un peu un moteur important dans les années 50, 60, etc., de vraiment vérifier si les contaminants sont cancérogènes. Et il y a toute une série de tests qui permettent de vérifier ce qu'on appelle la génotoxicité. Peu importe, est-ce qu'il y a une toxicité telle que ça peut risquer de provoquer un cancer. Mais de plus en plus, il y a des effets sur d'autres systèmes. Par exemple, il y a des effets sur le cerveau et donc sur le développement. On entend beaucoup parler aussi du développement neurocomportemental de l'enfant, de certaines pathologies du développement psychique de l'enfant, dont on trouve de plus en plus d'effets. Il y a des effets dits métaboliques. Je rappelle qu'il y a quand même une augmentation importante de l'obésité dans nos sociétés. Alors, je ne dis pas du tout que c'est uniquement dû aux polluants. Hein. On reviendra sur l'exposome tout à l'heure, mais ce n'est pas uniquement dû aux polluants. Mais quand même, il y a des arguments pour dire qu'ils y contribuent. Il y a des problèmes cardiovasculaires qui ont été démontrés, etc., etc. L'effet, par exemple, sur le foie et le rein, ça, c'est parmi les effets aussi historiques les plus caractérisés. Donc, on est passé aussi d'une étude sur des organes, la toxicité sur le rein, toxicité sur le foie, éventuellement le cerveau, à une toxicité sur des systèmes, le système endocrinien, qui est quelque chose où tout l'organisme, si vous voulez, est impliqué. Et il y a une perturbation d'un système physiologique, par exemple, comme le système endocrinien.
Avec les perturbateurs endocriniens qui ont eu une grande cote, on va dire, médiatique, Claire Philippa.
Oui, effectivement, perturbateurs endocriniens, c'est un terme qu'on entend beaucoup, et donc qui s'applique à des substances qui vont impacter le système endocrinien, qui est en fait le système hormonal. Et juste pour illustrer cette complexité, ce système, il est composé d'un grand nombre de glandes. Donc quand on passe qui va produire des hormones. Et souvent, quand on pense à hormones, je pense que la première chose qui vient en tête, c'est la reproduction et les hormones sexuelles. Donc c'est une des cibles des perturbateurs endocriniens, mais pas la seule. Les glandes endocriniennes, il y a aussi, par exemple, le pancréas qui va produire l'insuline. Il y a la thyroïde qui va produire des hormones thyroïdiennes impliquées dans la croissance et le neurodéveloppement. Et puis, il y a aussi des interactions entre ce système endocrinien et d'autres systèmes, notamment le système immunitaire. Et donc ça, je pense que ça met en lumière les cibles potentielles ou les effets potentiels de ces substances qui vont perturber le système hormonal.
Yann Cornillier. Ah non, je croyais que vous souhaitiez vous aussi réagir par rapport au système endocrinien sur le fait que voilà que c'était toute la régulation cellulaire qui est potentiellement impactée. Donc on voit bien tout l'enjeu de mieux caractériser en tout cas ces substances, ces molécules. On l'a évoqué, hein, c'est donc complexe d'évaluer ces interactions entre différents polluants. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. On peut peut-être donner ensemble quelques exemples de cet effet cocktail, Robert Barouki.
On a cité tout à l'heure les PFAS. On a dit qu'il y avait des dizaines et des... Donc, en fait, on est rarement contaminé par un seul PFAS. On est contaminé par une multitude de PFAS. Mais on peut dire la même chose d'autres plastifiants comme les phtalates, par exemple, qui sont dans les tout ce qui est plastique souple. Hein, donc, il y en a plusieurs, mais qui sont très utilisés aussi en cosmétique. Enfin, en fait, chacun de ces produits est utilisé dans un nombre d'applications parce qu'ils ont des propriétés importantes. Et puis, il y a plusieurs bisphénols. Et parfois, on est contaminé. Donc, si on prend un peu de sang ou un peu d'urine d'une personne, on sait analyser, on sait découvrir, on trouve beaucoup de substances, souvent parfois de la même famille. Et donc, on se dit qu'on n'est jamais exposé à une seule substance, mais que l'effet qu'on devrait idéalement rechercher, c'est l'effet de cette multitude, cet effet cocktail de plusieurs substances. Et donc, si... Dans certaines conditions, notamment si ce sont des substances qui passent par le même mécanisme d'action, il y a des arguments pour dire qu'il ne faudrait en fait additionner ces doses et non pas considérer comme si on était uniquement contaminé par une substance, mais additionner les doses. La problématique vient du fait que dans toutes les analyses réglementaires, sauf quelques exceptions, dans toutes les analyses réglementaires, on fait les études substance par substance. Donc, quand on interdit, quand on fixe des seuils, par exemple, quand on interdit tel ou... On raisonne substance par substance. Alors que la réalité de la vie réelle, c'est une contamination par plusieurs substances. Donc ça, c'est un défi majeur qu'on a devant nous.
Claire Philippa.
Effectivement, le fait que, enfin, cet effet, ce que vous appelez l'effet cocktail, c'est le fait que si on était exposé à une multitude de substances, l'effet serait probablement plus élevé que si on était exposé à une substance unique. Il y avait une étude notamment sur l'effet du bisphénol A sur la production des spermatozoïdes et qui avait mis en évidence que quand on exposait les cellules testiculaires à un mélange qui contenait du bisphénol A, la dose pour obtenir un effet était plus faible que si on avait exposé au bisphénol A seul. Donc ça, c'est un exemple de ce que vous appelez l'effet cocktail. Et ça fait référence à ce concept d'exposome qui vise à évaluer l'ensemble des expositions auxquelles a été soumis un organisme dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un concept qui s'est développé, je dirais, dans les années peut-être 2010, ou en tout cas... Et qui a entraîné un certain nombre de révolutions, en tout cas d'évolutions, au niveau de notre recherche, et qui passait déjà par la caractérisation de ces substances dans l'organisme. On n'avait à l'époque pas les méthodes pour doser beaucoup de substances. Et c'est vrai que nous, en épidémiologie, on a besoin d'avoir ces dosages pour pouvoir étudier ensuite les effets sur la santé. Et ça a aussi soulevé des problèmes un peu techniques sur comment, au niveau statistique, étudier l'ensemble de ces substances et pas substance par substance.
On va revenir évidemment dans quelques instants sur cet outil, cette boussole qu'est l'exposome. Mais en tout cas, avec cet effet cocktail, on comprend bien, Robert Barouki, tous les défis que ça représente pour un toxicologue d'évaluer les risques et la toxicité d'une molécule. Ça veut dire que tout ça, la notion de seuil, c'est une notion caduque.
Enfin, caduque, elle est quand même utilisée, elle est toujours utilisée, hein, donc qu'on le veuille ou pas, mais elle est remise en question dans un certain nombre de cas, parce que on pense dans certains cas, par exemple, on a parlé des cancérigènes, hein, de ces substances qui donnent potentiellement le cancer, on pense qu'il n'y a pas de seuil, donc même la moindre molécule peut théoriquement avoir un petit effet, donc on raisonne plutôt sans seuil. Dans d'autres cas, on utilise la notion de seuil parce que c'est une notion pratique d'un point de vue réglementaire. Vous savez que quand une agence doit donner un avis sur une substance, elle finit par fixer un seuil protecteur en disant si on absorbe moins de telle quantité de cette substance, finalement, on pense qu'il n'y a pas d'effet, disons, significatif ou détectable sur la santé. Et au-dessus de cet effet, au-dessus de ce seuil, on considère qu'il y a. Mais c'est évidemment remis en question parce que pourquoi on oublie les mélanges, on oublie l'effet cocktail, parce que tous ces seuils sont calculés substance par substance, alors que la réalité, ce n'est pas celle-là. Donc là, il y a un sujet et il y a une vraie réflexion au niveau de toutes les agences actuellement sur comment régler ce problème de manière pragmatique, parce qu'il faut être pragmatique.
Claire Philippa, vous souhaitiez réagir ?
Non, enfin, ou peut-être juste aussi mentionner que la remise en question finalement de cet effet seuil, ça a été aussi en lien avec l'apparition de ce terme de perturbateurs endocriniens, qui sont des substances pour lesquelles on a mis en évidence des effets à très très faible dose, et pour lesquelles voilà, il est difficile de définir un seuil.
Yann Cornillet.
Oui, bah, effectivement, c'est difficile d'établir un seuil quand on est dans cet exposome dont on a parlé, qu'on va parler un peu plus tard, et qu'il faut étudier aussi tout l'environnement de la personne, enfin des personnes, et puis aussi que l'effet des molécules, on est exposé toute notre vie à ces molécules, mais il y a des périodes de la vie où on est un peu plus vulnérable aussi, en particulier quand on est enfant, quand on est nourrisson, quand on est enceinte. Il y a des effets qui sont beaucoup plus personnes âgées encore, donc il y a tout un tas de facteurs, et c'est aussi l'exposome qui essaye de compiler un peu tout ça, même les facteurs sociaux, les facteurs alimentaires, qui peuvent changer la donne sur l'effet toxique des substances.
Voilà, avec des fenêtres de vulnérabilité. Alors on voit que l'analyse physico-chimique des concentrations de telle ou telle substance est donc à bout de souffle. Alors quelles alternatives pour la bio-expérimentale ? Restez avec nous. Rockin' Beats des Chemical Brothers en direct sur France Culture, car nous parlons de polluants chimiques tout au long de cette heure en compagnie de nos deux invités du jour. Claire Philippa, chargée de recherche à l'INSERM, épidémiologiste environnementale, spécialiste des effets des polluants chimiques sur le développement de l'enfant. Robert Barouki, médecin biochimiste et biologiste moléculaire, directeur de l'Institut thématique de santé publique de l'INSERM et directeur de l'Institut de recherche en santé publique. Une émission en partenariat avec l'INSERM et co-animée avec Yann Cornillet, rédacteur en chef du magazine de l'INSERM. Je viens de dire injustement que l'analyse physico-chimique des molécules était à bout de souffle. Comment justement les moyens, comment l'arsenal justement du toxicologue s'arme-t-elle ces dernières décennies, Robert Barouki ?
Écoutez, là je ne mets pas à la moyenne, hein, sur ce que vous venez de dire, désolé. Non, l'analyse physico-chimique connaît au contraire des évolutions majeures. Elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas, et donc, mais en fait, elle a connu une évolution vraiment majeure, alors que à une certaine époque, on avait presque du mal à détecter un certain nombre de substances chimiques. Bon, ce sont des substances, des xénobiotiques, comme je l'ai dit la plupart du temps, et elles sont présentes à des doses très faibles, donc c'est pas facile. Et donc, les analyticiens et les chimistes nous ont rendu un très grand service en arrivant à détecter, et en fait, maintenant, on en est à plusieurs milliers de substances. Si on, sur une analyse de sang ou des urines, on arrive à, en tout cas, détecter et parfois quantifier plusieurs milliers de substances qui étaient pas du tout atteignables. Donc ce qu'on appelle la spectrométrie de masse, un gros mot, excusez-moi, mais spectrométrie de masse, c'est vraiment le même progrès que ce qu'il y a eu dans le domaine de la génétique, à un moment où on a réussi à séquencer des grands génomes. Donc ça progresse très bien. Et d'ailleurs, la France et l'INSERM ont une infrastructure qui s'appelle France Exposome et qui a fait des avancées tout à fait majeures dans ce domaine. Ensuite, ça ne suffit pas et il faut aller plus loin. Et c'est pas parce que vous avez une substance dans votre corps qu'on détecte que vous êtes nécessairement malade. Il faut absolument pas. Le lien ne doit pas être fait de manière aussi automatique. Tout ce qu'on peut dire, c'est que vous en avez beaucoup ou plus ou moins. Hein, ça peut être une alerte, en revanche, et éventuellement à poursuivre. Et il ne faut le faire que dans des conditions bien précises, ce type de dosage.
Eh bien, comment établir un lien étiologique, justement, un lien de cause à effet entre une substance particulière et une pathologie isolée ? On poursuit avec le reportage du jour. dans la multitude des polluants chimiques persistants. Les PFAS, donc, sont très préoccupants car leur exposition prolongée pourrait induire des pathologies neurodégénératives en altérant les cellules nerveuses. Pour le reportage du jour, nous sommes allés au laboratoire Physiologie moléculaire et adaptation du MNHN pour comprendre comment on peut étudier ce lien. Et c'est avec vous, Céline Lozen, bonjour.
Bonjour Natacha, oui, on sait désormais que ces PFAS recèlent partout dans nos environnements et sont suspectés d'induire des altérations dans le cerveau en ciblant en particulier la myéline, tissu adipeux qui protège les fibres nerveuses et assure la bonne transmission des signaux électriques. Les PFAS pourraient alors dégrader les fonctions sensitives et motrices tout en induisant des pathologies neurodégénératives. Une hypothèse testée par Sylvie Romeau, maître de conférence en neuroendocrinologie avec une équipe de l'ICM dans son laboratoire. Elle étudie sur modèle murin et dès le stade embryonnaire les effets des PFAS pour vérifier un lien de causalité entre l'action de ces polluants et l'émergence de la sclérose en plaques.
C'est une énorme famille de molécules, il y en a à peu près 10 000 molécules. Et on a une connaissance de leur toxicité, notamment via des modèles animaux et notamment sur l'humain. On connaît la toxicité de certaines de ces molécules, notamment ce qu'on appelle les PFOA et les PFOS, qui sont excessivement stables dans l'environnement, ce qui fait qu'elles sont quasiment indestructibles et donc elles sont toxiques pour tous les biotopes, à la fois les animaux, les humains. Et c'est une véritable plaie environnementale et pour la santé publique également.
C'est leur stabilité dans les organismes et les milieux qui confère cette toxicité.
Exactement.
Ce lien entre le carbone et le fluor.
C'est exactement, c'est la liaison. En fait, c'est des molécules, vous avez un squelette de carbone, donc plein d'atomes de carbone, et qui sont reliés à des atomes de fluor. Et c'est cette liaison entre le carbone et le fluor qui est excessivement forte. Et en particulier dans le corps humain, elles sont stockées dans les graisses.
Donc elles ont des affinités avec les tissus adipeux, notamment la myéline qu'on retrouve dans les tissus nerveux.
C'est une gaine protectrice, nourricière qu'il y a autour des axones, des prolongements des neurones. Et en fait, c'est à 70% constitué de gras, de lipides. Et notre hypothèse est partie justement du fait que les PFAS, ces molécules éternelles, avaient une appétence en particulier pour les lipides. Et on a émis l'hypothèse que ces molécules pourraient s'accumuler avec prédilection dans la gaine de myéline autour des axones et forcément, a fortiori, perturber le fonctionnement de ces neurones.
Alors, quelle méthodologie vous avez pu mettre en place pour justement étudier l'impact et la présence déjà, la distribution de ces PFAS dans le cerveau ?
Donc, pour tester l'hypothèse de l'accumulation de ces PFAS dans le cerveau, et en particulier dans la gaine de myéline, nous avons exposé les souris à une période très critique du développement cérébral, du développement du cerveau, depuis la fin de la gestation jusqu'à la fin de la lactation. Donc c'est une période qu'on appelle période périnatale, qui est une période très plastique du cerveau vis-à-vis de son environnement. Et à la fin de la lactation, donc les nouveau-nés de souris sont âgés de 20 jours, on a récupéré le cerveau, on a purifié la gaine de myéline et on est allé doser la présence ou non de ces PFAS dans cette gaine de myéline. Et là, on a été très surpris par les résultats obtenus, c'est-à-dire qu'on avait une accumulation très forte de ces polluants, et en particulier du PFOS et dans une moindre mesure du PFOA dans la myéline des petits. Là, vous avez la pièce où on fait nos expériences de base. Vous avez tout le matériel dit de paillasse qui nous sert à faire les expériences classiques de laboratoire.
Donc, par exemple, c'est ici qu'on va observer la gaine de myéline altérée par les PFAS ou dans d'autres environnements où il y a des techniques plus de pointe
observer. On va ici récupérer les cerveaux de mammifères, de souris, et on peut purifier en effet cette gaine de myéline à partir des cerveaux. Et ensuite, c'est des gens qui sont très habitués à faire le dosage de ces PFAS dans le cerveau à qui on va envoyer les échantillons.
Ce qui est intéressant, c'est de comprendre quand on étudie ces modèles-là parce que en vertu de leur similarité avec le cerveau humain.
Que la gaine de myéline du xénope, au niveau de sa carte d'identité est très proche de la gaine de myéline des mammifères et en particulier de l'homme. Donc c'est un très bon modèle pour étudier l'impact d'une molécule d'une substance, d'un polluant environnemental, sur les capacités de réparation de cette gaine de myéline, et que l'on peut comparer ces mécanismes à ce qui pourrait se passer chez l'homme. Vous voyez, c'est simple, on a récupéré, vous voyez, on a le groupe contrôle, les souris exposées au PFOS, au PFOA, on les récupère 21 jours après la naissance, on fait de la masse spectrométrie. Le contrôle, même le contrôle, en a un petit peu. Et regardez l'accumulation de PFOS dans la gaine de myéline. Ça, c'est l'axone avec...
Ouais, c'est la coupe, ok.
Et autour, c'est la myéline. Et en fait, en PFOS, vous voyez comme la myéline est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine. Et en fait, regardez les désorganisations des neurones.
Ah oui, on a expulsé complètement altéré. En parallèle, vous menez aussi des expériences in vitro.
Voilà. Donc in vivo, chez la souris, on a montré que ces PFAS s'accumulent dans la gaine et la déstabilisent. Et on a mis au point, avec l'Institut Curie, avec la collaboration avec Patricia Bassereau à l'Institut Curie, on a mis au point ce qu'on appelle des giant vésicules, des vésicules géantes. Donc en boîte de pétri, on va reconstituer in vitro la carte d'identité de la myéline. On va refaire une myéline in vitro. Donc on mime ce qui se passe dans la myéline animale. Et donc on a exposé ces vésicules de myéline à des doses quasi environnementales de PFAS. Eh bien, on avait un résultat très fort. On casse ces vésicules géantes. On déstabilise tellement ces myélines-like. Et quand vous mettez en lien tous ces résultats, notre incapacité à réparer chez le tétard de Xenop avec une fonctionnalité altérée, notre imagerie qui montre que la myéline est déstabilisée à long terme chez l'adulte, chez la souris, après une exposition périnatale, vous combinez ces résultats à des méthodes in vitro où vous reconstituez en boîte de pétri la myéline, où vous voyez qu'elle se casse à des doses beaucoup plus faibles, eh bien, ça vaut le coup de travailler toujours sur ces PFAS historiques que sont le PFOA et le PFOS, car même s'ils ont été interdits par la Convention de Stockholm, ils sont toujours présents dans notre environnement, ils sont toujours présents dans notre corps, donc il faut avoir une bonne connaissance des impacts toxiques de ces molécules.
Merci Céline Lozen. Nos reportages loin du studio pour se frotter à la science telle qu'elle se fabrique au quotidien, c'est notre collection La Science au Labo, sur votre appli préférée, l'appli Radio France bien sûr. Yann Cornillier, une réaction à l'écoute de ce reportage.
Oui, bah écoutez, si vous avez bien écouté le protocole des travaux qui sont menés par les chercheurs, en fait, ils travaillent sur des souris qui sont gestantes, et donc ils travaillent vraiment sur la périnatalité, donc il y a un modèle en fait de ce qui peut se passer chez l'humain, et donc c'est vraiment emblématique de ce qu'on appelait tout à l'heure des périodes de vulnérabilité, donc vraiment de mesurer au cours de ces périodes très sensibles pour le corps et pour les descendants aussi, de la toxicité des substances, et en l'occurrence là les PFAS, quoi.
Et voilà, l'exposition à un composé n'a pas les mêmes conséquences à tous les âges de la vie. Ça, on l'a découvert entre autres aussi grâce aux cohortes épidémiologiques. Et avec vous, Claire Philippa, ce reportage, ça vous a évoqué un concept, le DOAD, origine développementale de la santé des maladies, un concept développé dans les années 90. Quel est-il?
Voilà, effectivement, ce concept, en fait, ce qu'il a mis en évidence, c'est que des expositions pendant la vie précoce, donc aussi bien pendant la grossesse, dans la vie intra-utérine et les premières années de vie, elles ont un effet sur la santé de l'enfant à court terme, mais aussi sur l'effet à l'âge adulte, à long terme, notamment sur la santé cardiovasculaire. Donc c'est un champ qui s'est d'abord intéressé à l'alimentation, disons, aux effets de l'alimentation pendant la grossesse, et puis qui s'est petit à petit élargi à l'étude des effets de l'exposition aux polluants chimiques durant ces périodes de sensibilité sur la santé, polluants chimiques mais aussi polluants de l'air.
Voilà, c'est toutes ces expositions-là qu'on appelle exposomes aujourd'hui, Robert Barocchi.
Oui, depuis quelques temps, une quinzaine, une vingtaine d'années, on parle d'exposome. Et c'est quoi l'exposome? Au fond, c'est le complément du génome. On sait que notre génétique, notre hérédité, conditionne un certain nombre de maladies. Mais notre environnement et tous nos comportements, tout le reste, influent sur les maladies. Donc c'est à la fois le génome et puis tout le reste, c'est-à-dire toutes les expositions qu'on a mis sous un seul chapitre qui est l'exposome. Alors donc, c'est toutes les expositions, ça veut dire les molécules chimiques dont on a parlé tout à l'heure, le bruit, la lumière, les infections, de certains aspects, les pollens, mais aussi les stress de la vie, les stress psychosociaux qu'on peut voir. Donc, cet ensemble, ça s'appelle l'exposome. Alors évidemment, c'est pas uniquement toutes les expositions, c'est les expositions tout au long de notre vie. On vient de parler de l'importance des expositions qu'on a au tout début de la vie. Donc c'est un but, hein, c'est énorme l'exposome, et on va pas d'une manière très simple pouvoir caractériser l'ensemble de l'exposome d'une personne. Mais ce que vous avez dit tout à l'heure, la boussole, et c'est un bon terme, parce que c'est une orientation, c'est-à-dire dans nos recherches, dans ce que nous faisons, dans notre réflexion, mettons autant d'expositions que possible pour essayer de les analyser et voir quel est leur effet. Par exemple, si je vis à un endroit donné, quelle est la pollution de l'air dans cet endroit? Est-ce qu'il y a du bruit dans cet endroit? Est-ce que je suis bien isolé? Je vis dans un appartement bien isolé, ou est-ce que j'ai de la chaleur? Est-ce que je suis dans une famille où il y a des problèmes psychologiques ou autres, ou économiques qui constituent un stress? Est-ce qu'il y a des espaces verts à côté ou pas? Tout ça, est-ce que je mange, évidemment? Est-ce que je fume? Tout ça, c'est l'exposome. Donc, l'idée, c'est de regarder les interactions entre le maximum possible de ces données pour avoir une représentation la plus réaliste possible, de notre vie et de ce qui peut conditionner nos pathologies. Donc c'est ça la boussole, et c'est vers ça qu'on s'oriente. D'ailleurs, à l'Inserm, on a plusieurs cohortes hein, qui étudient l'exposome, et on est en train de monter une très grande cohorte de 100 000 couples enfants, donc qui s'appelle Philomène, et qui a pour but d'explorer l'exposome dès le début de la vie et de suivre les effets sur le long terme.
Mais explorer l'exposome depuis la naissance, modéliser ça dans la réalité scientifique, Claire Philippa, c'est une gageure, non ?
Ça pose ce plusieurs challenges, dont certains très pragmatiques. Déjà, celle du financement, parce que finalement, si on se restreint aux polluants chimiques, doser 100 000 substances, ça coûte très cher. Donc, on a des financements aussi bien nationaux qu'européens, mais beaucoup européens, en fait, pour pouvoir doser toutes ces substances. Et ça fait écho à ce que vient d'évoquer Robert en épidémiologie environnementale aussi. Ça pose la question de la taille de la population. Plus on va étudier de substances et plus on a besoin d'une grande taille de population, notamment si on veut étudier les interactions, comment ces polluants interagissent ensemble ou avec d'autres parties de l'exposome comme l'exposome social. Et donc c'est la raison finalement du montage de cette nouvelle cohorte, avec un objectif de recruter 100 000 femmes enceintes, parce que les cohortes existantes, elles ont un effectif trop faible pour pouvoir étudier l'ensemble de ces interactions.
Robert Baouk.
Et l'intérêt majeur de l'exposome, c'est qu'au moins en partie, c'est évitable. Il y a un certain nombre, parfois on ne peut pas éviter un certain nombre de choses, mais on peut éviter de manger des choses contaminées. Enfin, il y a une approche qu'on peut faire. Évidemment, l'essentiel, c'est de la réglementation, c'est aussi aux autorités publiques de donner des recommandations, de prendre des mesures d'interdiction et autres. Mais au niveau individuel, on peut aussi, je dirais, améliorer, entre guillemets, son exposome. Et donc, par rapport aux gènes qui sont extrêmement difficiles, on peut les faire dans certaines maladies rarissimes, mais enfin, difficiles à modifier, et parfois, heureusement. Donc, pour l'exposome, la prévention, c'est un outil majeur pour la prévention, cette meilleure compréhension.
Je reviens tout de suite dans quelques instants sur la prévention, mais toujours pour évoquer ensemble cet outil majeur qu'est la cohorte, la grande cohorte épidémiologique. Il faut noter, Claire Philippa, que vous avez réussi avec votre équipe, à relier les PFAS à une altération de la structure du placenta, notamment avec la grosse cohorte CEPAGES.
On dit CEPAGES.
Merci, effectivement, voilà. Mais en Espagne,
effectivement, la cohorte CEPAGES, c'est une cohorte. Alors, une cohorte, déjà, qu'est-ce que c'est? Peut-être, c'est finalement un groupe d'individus qu'on va suivre dans le temps. Donc là, on parle de cohorte mère-enfant, donc c'est des femmes qui ont été recrutées pendant la grossesse, pour lesquelles on a fait des dosages dans le sang ou les urines. Alors pour les PFAS, c'est plutôt le sang, pour évaluer les expositions, et ensuite on suit la santé de l'enfant. Donc l'étude à laquelle vous faites référence, on s'est intéressé au placenta, qui est finalement l'organe prépondérant qui régule les échanges entre la mère et le fœtus, et un bon fonctionnement placentaire et nécessaire au bon développement du fœtus et donc de l'enfant plus tard. Et effectivement, c'était une des premières études qui s'intéressait au placenta comme cible des PFAS et qui suggérait une altération des échanges materno-fœtaux en lien avec une augmentation de l'exposition aux PFAS. Et c'est un des effets potentiels des PFAS parmi beaucoup.
Robert Baouk.
Oui, c'est très important. Le placenta, c'est important. On revient à cette notion des premiers jours de la vie, enfin, et de ce qui se passe dans la phase fœtale. Il y a des exemples assez connus. Tout le monde se rappelle peut-être du Stilben ou certains antiépileptiques et leurs conséquences sur le développement de l'enfant. Il y a quelques gros exemples qui ont marqué. Et donc, mais en fait, là, nous, on essaie de voir les choses dans leur ensemble, parce que en termes de santé publique, il faut voir les choses dans leur ensemble, pas seulement un produit chimique. un produit chimique, la nutrition, le comportement, la vie sociale, la vie psychologique, etc.
Claire Philippa.
Non, je suis entièrement d'accord. Et si on peut revenir sur les aspects de prévention, donc ce que mentionnait Robert, effectivement, pour protéger la santé des populations et donc diminuer les expositions à différentes approches, on peut effectivement changer les comportements individuels. Et il y a des études qu'on va appeler des études d'intervention qui ont mis en évidence que changer certains comportements permettait de diminuer les expositions. Alors, ça marche notamment pour les composés dont on a parlé au début d'émission, qui est une courte demi-vie, une courte rémanence. Et par exemple, il y a des études qui ont montré que manger bio permettait de diminuer en quelques jours les concentrations urinaires de certains pesticides. Limiter les utilisations de produits de soins et cosmétiques permet aussi de diminuer l'exposition à certains composés comme les parabènes et certains phtalates. Et puis, il y a des études aussi dans des crèches qui s'intéressaient au changement de la literie et qui ont mis en évidence une diminution de la concentration de retardateurs de flamme qui sont aussi des composés neurotoxiques dans les poussières. Donc, c'est une façon de modifier les comportements individuels, mais de façon pragmatique pour un individu, c'est très difficile d'identifier et d'éliminer les sources d'exposition à ces composés dans son environnement à la maison. Et c'est là où ça met en lumière toute l'importance de la réglementation si on veut protéger l'ensemble de la population. En plus, la modification de comportements individuels, ça implique que les personnes connaissent les composés chimiques, leurs effets, les sources, et sont en capacité de les éliminer ou de les modifier, ce qui peut entraîner un problème de coût aussi, parce que parfois les alternatives sont plus chères.
Sur la réglementation, en effet, parce que là on évoque les comportements individuels, mais on peut aussi voir à plus haute échelle, Robert Barouki.
C'est fondamental, la réglementation, la protection, elle doit être générale. Donc c'est les deux, hein. C'est une combinaison de comportements individuels, mais aussi de réglementation générale. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que il y a vraiment des avancées dans le domaine qui permettent d'avoir de l'espoir. Donc il y a la prévention, donc on connaît de mieux en mieux, on sait de mieux en mieux comment faire pour la prévention. Il y a sur le plan des substances chimiques, puisque c'est un peu le sujet du jour, la capacité sans doute qui va arriver là grâce à ce qu'on appelle la modélisation, mais c'est l'intelligence artificielle au service des connaissances toxicologiques, qui pourrait nous permettre de produire, de synthétiser, de concevoir des substances chimiques dès le départ avec le moins de risques possibles toxiques. C'est pas actuellement déjà là. On commence, on avance, mais ça c'est un domaine. Nous n'avons rien contre les substances chimiques. Au contraire, hein, ça fait partie du progrès et c'est très bien. Simplement, ce qu'on voudrait, c'est avoir les moyens de produire des substances chimiques dès le départ avec le moins de risques possibles qu'elles soient toxiques. Et là, c'est en train d'arriver.
Yann Cornélie, on a l'association quand même comme ça parfois, que les scientifiques alertent, mais que les réglementations traînent.
Ah, ça, après, c'est des décisions politiques, mais de toute façon, comme on disait au début de l'émission, ça prend du temps aussi d'accumuler les preuves. Et donc, il faut aussi du temps à la réglementation de s'installer, tout simplement.
Oui.
Oui, et je pense aussi pour cette réglementation, et c'est les discussions qui sont en cours, on espère un changement de paradigme, en tout cas de passer d'une réglementation qui se fait par substance à une réglementation plus large, qui soit par famille ou par type d'effet. Si on revient sur l'exemple du bisphénol A qui a été interdit dans les contenants alimentaires, s'est posée ensuite la problématique du bisphénol S, donc des substituts. Si on avait pu interdire dès le début l'ensemble des bisphénols, ça évite ce problème-là. On a discuté de l'acétamipride en début d'émission, qui est interdit pour usage agricole, mais toujours utilisé comme biocide à la maison. Donc il faut que cette réglementation elle soit multi-substance et aussi multi-secteur. Si une substance est interdite dans un type d'utilisation, il faudrait qu'elle soit interdite ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses et c'est des choses qui évoluent, notamment dans le cadre des discussions sur la réglementation des PFAS. Mais c'est vraiment important parce que comme on l'a évoqué dans cette émission, pour développer, accumuler assez de preuves pour mener à la réglementation, ça prend beaucoup de temps. Et c'est un temps auquel la population générale est exposée à ces substances.
Bien, merci à vous trois. Malheureusement, notre temps d'émission est arrivé à bout. Dans une poignée de secondes, on retrouve la chronique d'Alexandra Delbeau. Pour prolonger l'écoute et le plaisir, je rappelle que le dernier numéro du MAC de l'INSERM, Polluants chimiques, la menace invisible, est disponible en ligne. Tout de suite, on change complètement de sujet. Les Alpes sont un futur foyer d'orages supercellulaires. C'est la chronique avec science.
Les orages supercellulaires deviendront-ils plus fréquents avec le changement climatique? La cellule d'un orage, c'est l'ensemble du système de convection. En bas, de l'air chaud et humide monte. En haut, il se condense en nuages, pluie ou grêle. Puis, l'air refroidit et redescend par les côtés. Les orages simples, à une seule cellule, ce sont les orages d'été. Ils sont petits en taille et courts en durée. Ils s'arrêtent en moins d'une heure. Les orages peuvent aussi se regrouper. On parle alors d'orages multicellulaires, l'un nourrissant le suivant, ils durent plus longtemps et sont un petit peu plus violents. Et puis, dans de très rares cas, prennent vie des orages beaucoup plus puissants, larges et longs. Ce sont les orages supercellulaires. Monica Feldman est postdoctorante à l'Institut de géographie de l'Université de Berne.
Les orages supercellulaires, ils sont juste une fraction des orages et ils sont la fraction la plus intense de tous les orages. En Suisse, on a trouvé que ce sont moins qu'1% de tous les orages. Et ils se forment dans des situations quand il y a beaucoup d'instabilité. Ça veut dire que l'air est très humide et très chaud. Et ils ont un courant d'air ascendant qui a beaucoup de rotation. Et c'est cette rotation qui donne une dynamique aux orages qui est plus intense que les autres orages. Ils produisent plus de grêle, plus de rafales de vent, pluie plus intense et dans des cas rares aussi des tornades. Vu qu'ils sont moins qu'un pour cent de tous les orages, c'est quand même assez rare, mais ils se produisent régulièrement. Ce sont plus ou moins 700 orages supercellulaires par année dans toute l'Europe. Si je me souviens bien, il y avait un orage supercellulaire à Paris qui a causé des inondations. C'était vers le fin de la canicule en juin.
Un déluge et des vents jusqu'à 112 km/h qui ont causé des inondations et déraciné des arbres. Les dégâts n'ont été que matériels, aucune victime n'a été à déplorer pendant cet orage parisien en juin dernier. Mais ce n'est pas le cas de tous ces épisodes orageux car ils sont particulièrement dévastateurs. Et puisque ces orages supercellulaires dépendent notamment des conditions de température, qu'adviendra-t-il à l'avenir? Avec le changement climatique, les orages supercellulaires sont-ils appelés à augmenter en Europe? C'est précisément la question qu'aborde une nouvelle étude parue dans Science Advances. Et comme toujours, quand on parle climat, on va parler simulation. En l'occurrence, il y en a deux. Les scientifiques ont d'abord testé leur modèle sur le présent, avec des données actuelles, entre 2011 et 2021, afin de vérifier qu'il reproduit bien les orages supercellulaires déjà observés. Et puis, les autrices et auteurs de ce papier ont réalisé la même simulation, mais dans un climat à plus 3 degrés. L'originalité de ce modèle, c'est sa très haute résolution, 2,2 km, une résolution suffisamment fine pour bien identifier ces orages. Résultat, une hausse des températures de 3 degrés suffit à augmenter la fréquence des orages supercellulaires de 11% en Europe, un chiffre faible et global, mais il y a de fortes disparités régionales.
Il y a des régions qui sont assez différentes. Par exemple, en Espagne, sur la péninsule ibérique, il y a une diminution de presque 30%. Au nord des Alpes, on a une augmentation de plus que 50% et au sud des Alpes, ce sont presque 40% qui s'augmentent. Alors, enfin, on a des signaux régionaux très différents et c'est surtout lié à les changements de l'humidité. La température s'augmente dans toute l'Europe, mais l'instabilité de l'atmosphère a aussi besoin d'assez d'humidité. Il y a des changements régionaux qui ne sont pas du tout de la même façon dans toute l'Europe. Et cette simulation nous donne vraiment la possibilité de trouver les orages spécifiques. Et on ne savait pas en avance qu'est-ce qu'on va trouver. Mais à la fin, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des différences régionales comme ça.
Pourquoi les Alpes apparaissent-elles comme un futur hotspot des supercellules? Pourquoi deviennent-elles l'un des principaux foyers d'orages supercellulaires en Europe? Ce n'est pas tout à fait étonnant non plus. La montagne est en première ligne face au changement climatique. Les glaciers fondent à vue d'œil et les Alpes en particulier se réchauffent plus vite qu'ailleurs. Ces orages supercellulaires dépendent de la température, oui, mais aussi et surtout de l'humidité et des vents. Et on sait déjà qu'en montagne, l'humidité des lacs et les circulations d'air dans les vallées sont deux facteurs influençant ces orages. La suite de ces recherches, c'est d'en trouver d'autres. Autre perspective plus pratique cette fois, c'est l'alerte. On dispose déjà de systèmes automatiques capables de détecter ce courant ascendant rotatif, la signature même d'une supercellule. Mais à l'échelle de quelques jours, les prévisions précises restent difficiles. On reconnaît quand les conditions sont favorables, sans pouvoir dire exactement où la supercellule va frapper. Comme toujours, l'enjeu sera donc de mieux en anticiper et de s'y adapter.
Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. Arrêt la réalisation, Olivier Bétard à la technique aujourd'hui, Ludovic Augier. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.